VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morajibour avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, 8 soldats tchadiens et 48 djihadistes de Boko Haram ont été tués dans un affrontement dans la région du lac Tchad. Au Cameroun, le porte-parole de Maurice Kamto annonce une enquête publique au sujet de faux observateurs électoraux. 51 personnes sont mortes au Kenya suite à un accident d'autocar. Enfin, en Floride, l'ouragan Michael a touché les côtes. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, au Cameroun, après s'être autoproclamé vainqueur lundi, Maurice Kamto revient à la charge. Aujourd'hui, son porte-parole a annoncé l'ouverture d'une enquête publique au sujet de faux observateurs électoraux qui ont été présentés comme des observateurs de Transparency International. De Yaoundé, la correspondance de Jules-Emmanuel Ntap.
Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bissouk Nissak, a demandé l'ouverture urgente d'une enquête pour identifier les faux mandataires de Transparency International. Lundi, 6 personnes d'origine occidentale avaient été présentées à la CRTV, la télévision d'État, comme étant des observateurs envoyés par l'organisation de lutte contre la corruption. Transparency a démenti mardi avoir envoyé les observateurs au Cameroun. Par ailleurs, le porte-parole de Maurice Kamto a indiqué que des soulèvements et actes de violence sont en préparation pour être mis au compte de leurs champions. Il a aussi rassuré que la sécurité de Maurice Kamto n'est pas pour le moment menacée. Yaoundé, Emmanuel Jolouta, VOA Afrique.
Nous reviendrons sur cette ambiance post-électorale au Cameroun dans la seconde partie de cette édition. En République démocratique du Congo, la deuxième réunion entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats à l'élection présidentielle s'est terminée en queue de poisson ce mercredi à Kinshasa. La persistance du désaccord autour de la machine à voter et une phrase du président de la CENI ont énervé certains candidats. Nous avons plus de détails avec la correspondance de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ceux qui ne veulent pas expérimenter la machine à voter peuvent quitter la salle, aurait déclaré en pleine réunion Corneille Nanga, le président de la CENI, selon le candidat président Théodore Ngoï. Pendant près de 3 heures, les 6 candidats présents sur les 21, en plus des délégués de quelques absents, ont essentiellement discuté de la méthodologie du travail adopté dans ce cadre de concertation. Au débat technique préconisé par la CENI, la légalité de la machine à voter et le fichier électoral ont été soutenus comme point de départ par la majorité des candidats, surtout ceux opposés à l'usage de la machine à voter, cet outil informatique dont la CENI conditionne l'usage pour la tenue des élections le 23 décembre prochain. Le désaccord persistant, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Setki Kouni et Maître Jacquemain Chabani, le délégué de Félix Tshisekedi, ont quitté la salle et annoncé qu'ils préparent une déclaration commune sur l'échec de ce cadre de concertation. La collaboration est bonne, nous avançons et avons demandé à tout le monde de se faire accompagner d'experts, a pour sa part déclaré le vice-président de la CENI, Norbert Katintima, qui a rejeté les propos du candidat Théodore Ngoï. À 2 mois et demi des élections, les violences sont très loin de s'accorder autour de l'usage ou non de la machine à voter le 23 décembre prochain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, le procès de l'opposant en exil Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été suspendu et renvoyé devant la Cour constitutionnelle. Les juges ont refusé d'entendre leurs avocats en l'absence des 2 principaux prévenus, l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi et un ressortissant américain du nom de Daryl Lewis. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre Ebola a tué 118 personnes, dont 3 enfants. Près de 15 300 personnes ont été vaccinées, c'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. Par ailleurs, les autorités ont annoncé des mesures contre les agressions des personnels de santé et le non-respect des mesures de prévention. Sachez-le, les guérisseurs et les tradipraticiens devront référer tout cas suspect sous peine de voir leur centre fermé et d'être interdit de pratiquer toute forme de médecine. Direction le Tchad à présent. Affrontement aujourd'hui entre l'armée tchadienne et les djihadistes de Boko Haram dans la région du lac Tchad. 8 soldats tchadiens et 48 terroristes ont été tués. Eric Manirakiza.
Les djihadistes de Boko Haram ont attaqué très tôt ce matin la position des militaires tchadiens dans la localité de Kaiga Kinji. D'après le porte-parole de l'armée en N'Djamena, le colonel Azem, 8 militaires sont morts et 11 ont été blessés, tandis que 48 terroristes ont été tués. Début octobre, Boko Haram a visé au mortier un camp militaire à Litri, près de la frontière avec le Nigeria, tuant un militaire tchadien. Fin septembre, 6 personnes, dont 2 militaires, ont été tuées dans une attaque sur les rives tchadiennes du lac Tchad. L'armée avait annoncé avoir tué 17 djihadistes. Depuis plusieurs semaines, l'armée nigériane a aussi intensifié ses opérations dans la région du lac Tchad avec des frappes aériennes contre le groupe djihadiste. Boko Haram opère dans tous les pays au bord du lac Tchad en commettant des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements. L'insurrection islamiste et sa répression a fait au moins 27 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire avec près de 2 millions de déplacés.
Agnès Reeves Taylor, l'ex-femme de l'ancien président libérien Charles Taylor, a comparu aujourd'hui devant une cour criminelle de Londres. Madame Taylor a plaidé non coupable d'accusations de torture contre plusieurs personnes, dont des enfants, durant la guerre civile au Libéria dans les années 1990. Au moins 51 personnes ont été tuées ce matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya. Selon la police, le véhicule était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers. Salwa Jaafari nous en dit plus.
Sur le site de l'accident, un bus rouge qui ne ressemble plus à rien. Les bagages des passagers sont éparpillés et le toit gît à plusieurs mètres du véhicule. James Nouguera, commandant de la police, inspecte les lieux.
Selon le premier rapport que nous avons reçu, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et a dévalé la falaise. Nous avons perdu plusieurs vies, nous avons pu compter 50 personnes tuées, 31 hommes, 12 femmes et 7 enfants.
Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que les autorités enquêtaient sur ce qu'il a appelé un incident catastrophique. Les statistiques officielles font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre serait supérieur à 12 000.
La marine royale marocaine a ouvert le feu sur une embarcation transportant des migrants lors d'une opération d'interception au large de Larache, située à l'ouest du pays. Un des migrants a été blessé par balle à l'épaule lors de cette opération.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, ici aux États-Unis, avec des vents de 220 km/h, l'ouragan Michael, décrit comme extrêmement dangereux, a frappé les côtes de la Floride où l'état d'urgence a été déclaré. Des dizaines de milliers d'habitants ont évacué les zones dangereuses. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
L'ouragan Michael se dirige à une vitesse de 220 km/h vers la Floride dans le sud-est des États-Unis. Il est potentiellement catastrophique, ont averti les météorologues américains. Ils ont précisé que l'eau se trouvait à 80 km de Panama City en première ligne. Tallahassee, capitale de la Floride, est devenue une ville fantôme. Le gouverneur républicain de Floride, Rick Scott, s'est dit très inquiet pour les personnes qui ont décidé de ne pas partir. Quelques 375 000 personnes dans plus de 20 comtés de la Floride ont reçu l'ordre ou ont été incitées à évacuer. Michael sera la plus puissante tempête en plus de 100 ans dans certaines régions, ont prévenu les services d'urgence de l'État. Nous sommes très bien préparés, a assuré hier le président Donald Trump. Il a approuvé mardi l'état d'urgence dans 35 comtés de Floride. Les États voisins d'Alabama et de Géorgie devraient également être affectés. L'État de Caroline du Nord, affecté à la mi-septembre par l'ouragan Florence, a été placé en alerte.
En Syrie, le groupe État islamique mène une contre-offensive dans sa dernière poche de la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays, face à une force arabo-kurde soutenue par Washington, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis en France, dans le cadre de l'examen du projet de budget 2019, les députés ont voté aujourd'hui en commission un plafonnement des taxes acquittées par les étrangers lors de l'octroi des taxes des titres de séjour. Au lieu de 600 euros, les étrangers ne paieront désormais que 150 euros. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'Angola pourrait réduire son déficit budgétaire à 1% d'ici à la fin de l'année, selon José de Lima Massano, gouverneur de la Banque centrale angolaise. Cette performance, qui représente une baisse par rapport aux 7% de déficit budgétaire enregistré à la fin 2017, devrait être stimulée par le plan de stabilisation macroéconomique mis en place par le président João Lourenço. Le fardeau de la dette est de plus en plus important, 64% du PIB en 2017. L'État envisageait néanmoins de recourir aux marchés obligataires afin de financer ses projets de développement dans un contexte de diminution de ses réserves en dollars. La Banque mondiale va investir 594 millions de dollars en faveur de l'éducation en Tanzanie. Ce financement s'ajoute aux 25 projets de l'institution de Bretton Woods dans le pays. Totalisant près de 3,95 milliards de dollars, ces projets sont essentiellement destinés à améliorer le secteur du transport en Tanzanie. Et pour terminer, en Libye, 9% du combustible vendu dans les stations-service est passé par les réseaux de contrebande, selon un rapport de la police italienne qui lutte contre la contrebande d'essence.
Vous aviez bien entendu reconnu la voix de Nanit Talani et non celle d'Eric Manirakiza. Toutes mes excuses pour cette erreur. Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Nouvelle journée de qualification pour la CAN 2019.
Oui, l'Éthiopie et le Kenya ont fait match nul, 0-0 à Bahir Dar dans le groupe F. Et dans le groupe K, la victoire de la Zambie à Lusaka 2-1 contre la Guinée-Bissau. Une victoire précieuse pour revenir sur les talons du leader bissau-guinéen dans ce groupe K.
La double confrontation Sierra Leone-Ghana est annulée.
Les deux matchs prévus demain et dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont été annulés. Annonce de la Confédération africaine de football, en cause une dispute entre Freetown et la FIFA qui a suspendu la Fédération Sierra Leonaise de football la semaine dernière pour ingérence gouvernementale. Pour l'heure, la CAF n'a pas précisé si ce forfait entraînait la disqualification complète des Leone Stars, ni si le Ghana allait récupérer les 6 points sur tapis vert. On rappelle que dans ces éliminatoires de la CAN 2019, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Cette prochaine CAN doit, en principe, se dérouler au Cameroun du 15 juin au 13 juillet l'année prochaine.
La Libye n'a plus de sélectionneur.
Alors qu'ils sont opposés au Nigeria samedi et mardi dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2019, les joueurs libyens viennent de perdre leur sélectionneur Adel Amrouche. En plein stage de préparation en Tunisie, le technicien algérien a claqué la porte et démissionné. La raison, plusieurs mois de salaire non versé. Son intérim devrait être assuré par son adjoint Omar Al-Marmi lors de ces deux matchs.
Demain, la Ligue des Nations reprend ses droits en Europe.
Et notamment la sélection du Portugal, qui a été surtout animée par les déboires extra-sportifs de Cristiano Ronaldo. Eh bien, les Portugais, comme en septembre contre l'Italie, ne pourront compter sur Cristiano Ronaldo, les Portugais qui affrontent la Pologne. Idem avec la Russie, la Zbornaïa, sur la lancée de sa belle Coupe du Monde, avait réussi de beaux débuts en Ligue des Nations en allant s'imposer 2-1 en Turquie. Mais on parle beaucoup plus là-bas des écarts d'Alexander Kokorin et de Pavel Maev. En tout cas, la Russie accueille à Kaliningrad la Suède. À Haïfa, Israël reçoit l'Écosse, la Serbie en déplacement chez le Monténégro, la Roumanie ira en Lituanie, les îles Féroé accueillent l'Azerbaïdjan et le Kosovo face à Malte.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au moins 180 000 ressortissants de la RDC en situation irrégulière en Angola sont rentrés dans leur pays depuis le début d'une opération d'expulsion lancée par Luanda contre les clandestins. Plusieurs d'entre eux ont été tués en marge de cette opération. Eddy Isango a joint à Chikapara, dans la province du Kasaï, le coordinateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, Albert Fayamba.
Je suis juste à l'entrée de la ville de Chikapa. Je vois les chasseurs de l'Angola qui viennent. Ils font presque 150 kilomètres à pied, des femmes, des enfants, des hommes, dans les conditions tout à fait des personnes fatiguées, humiliées.
Qu'est-ce qu'ils disent des opérations qui sont menées là-bas pour les évacuer, pour les chasser?
À la sortie là, ils avaient des tracasseries policières. Des fois, on pouvait fouiller dans leurs biens, mais vu leur nombre, cette tracasserie-là a diminué puisqu'il n'y a pas moyen de les contrôler. Malgré ça, les services de l'État essaient un peu de voir par quels moyens ils peuvent être dirigés pour que chacun récupère sa famille.
Mais on parle de morts et même parmi eux des Congolais.
Ils nous parlent des morts de la ville de Lukapa, de certaines personnes qui ont été tuées, forcées pour sortir et tuées. Là, nous n'avons pas tellement le bilan.
Les commissaires de la police angolais parlent d'au moins 180 000 Congolais qui auraient été chassés. Est-ce qu'en arrivant au Congo, ces personnes sont-elles prises en charge par les autorités?
Jusque-là, il n'y a aucune autorité en place ou une organisation non gouvernementale qui a pris en charge ceux qui sont en train d'entrer. Des fois, certaines viennent sans quelque chose entre leurs mains. Vous savez, il y a un délai qui les a été donné de sortir librement avec leurs biens. Et vu que ce délai est en train d'expirer, alors certaines sont chassées pour chasser, laissant leurs biens de l'autre côté de l'Angola.
Certains d'entre eux viennent d'autres coins de la RDC, mais quand ils sont rapatriés ou chassés par les Kasaï, comment vont-ils rejoindre leur famille?
Ça semble être un peu une équation à ce niveau-là, puisque vous savez, ici au Congo, les moyens de transport sont compliqués, il n'y a pas de route pour la circulation facile, alors c'est tout à fait difficile. Si quelqu'un de Kavemba, du côté de Bandundu, se retrouver sortir du Kasaï, celui du Kasaï se retrouve sortir du côté de Bandundu.
Il y a chaque année des rencontres comme ça après qu'on ait expulsé les Congolais, mais la situation ne change pas.
Ça vient chaque année, chaque moment. À l'heure qu'il est, il semble que tous les expatriés qui étaient en Angola, que ce soit les Blancs, les Noirs, les Sénégalais, les Ivoiriens, sont chassés de cette façon-là, tous ensemble.
Albert Fomba, coordinateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, il était joint à Chikapa, en RDC. Au Cameroun, la compilation des votes de la présidentielle a débuté mardi, environ 48 heures après le scrutin de dimanche. À l'issue de cette étape, la Commission générale de recensement des votes va transmettre les résultats à la Cour constitutionnelle pour publication. En attendant, les Camerounais sont partagés sur la victoire revendiquée lundi par l'opposant Maurice Kamto. Notre envoyé spécial Bagassi Koura a tendu son micro à des passants à Yaoundé.
La sortie lundi de Maurice Kamto, qui s'est déclaré vainqueur de la présidentielle, est toujours largement commentée dans les rues de la capitale. Les Camerounais sont divisés sur la question. C'est une immaturité politique, estime le septuagénaire Frédéric Tchalanga.
Majesté Tchalanga, moi j'ai fait politique étant enfant. Jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe.
Pour Tchalanga, Maurice Kamto est un amateur qui est sous l'effet de la folie des grandeurs.
Il n'a pas appris politique, c'est l'argent qui lui rend fou pour faire tout ce qu'il fait.
Certains prêtent aussi des intentions au candidat du MRC, à l'instar de ce fonctionnaire qui a requis l'anonymat.
Il n'y aura pas ce qu'il veut faire, l'insurrection, il n'y aura pas ça au Cameroun. Nous les jeunes fonctionnaires, il n'y aura pas cela au Cameroun.
Mais il y a aussi ceux qui comprennent les propos tenus lundi par Maurice Kamto un spécialiste du droit qui inspire confiance selon eux.
Le professeur Maurice Kamto, c'est un grand homme et je pense que ça, il ne parle pas au hasard parce que c'est lui-même qui a écrit le code électoral. Donc je pense que c'est les mots qu'il a prononcés sont des mots qu'il maîtrise lui-même très bien.
Moi, je pense qu'au-delà des vacances, des autres adversaires politiques, il sait bien de quoi il est question et je pense que ses déclarations sont tellement nuancées et métaphoriques et c'est ce qu'il fait.
À Tangana, Ona Dominique, militant de première heure du Parti nationaliste l'Union des populations du Cameroun, estime que la polémique actuelle reflète en réalité l'échec des leaders de l'opposition.
Les opposants, on leur a demandé de faire une coalition pour trouver un candidat charismatique qui peut se présenter contre le président du parti au pouvoir, mais ils n'ont pas voulu. Mais maintenant, s'auto-proclamer comme candidat élu avant la déclaration des résultats, ce n'est pas une bonne chose, c'est une façon d'amener le Cameroun dans le chaos.
En attendant la publication officielle des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, au plus tard le 22 octobre, la plupart des Camerounais veulent que la course au pouvoir n'aboutisse pas à une querelle politique prolongée. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'élection présidentielle de dimanche dernier au Cameroun. Le pays est dans l'attente des résultats, mais l'un des candidats de l'opposition, Maurice Kamto, a d'ores et déjà revendiqué la victoire face au président sortant Paul Biya. Cette proclamation jugée prématurée pourrait-elle donner lieu à une crise post-électorale dans ce pays déjà confronté aux troubles dans les régions anglophones? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, la société civile se solidarise pour soutenir les forces de défense et de sécurité en proie à des vagues d'attaques terroristes dans le pays. Une initiative citoyenne de soutien au FDS a organisé ce matin un cross populaire, prélude d'une série d'activités à venir. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Suite aux multiples attaques terroristes qui frappent et endeuillent le Burkina Faso, la France jeune de la société civile ne veut pas être en reste. Des initiatives qui naissent ça et là pour galvaniser et remonter le moral des troupes durement touchées ces derniers mois, explique Issouf Zungrana, coordonnateur de l'initiative citoyenne de soutien aux forces de défense et de sécurité.
L'objectif de cette initiative citoyenne-là, c'est de mener des actions citoyennes en vue de soutenir, de motiver et de galvaniser les forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, défendre notre pays, nuit et jour, contribuer à la protection de notre nation. Et au-delà de ça, passer des messages à l'endroit de la population et tous les acteurs du système sécuritaire et de défense de notre pays pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse œuvrer à lutter contre ces attaques.
Battre le pavé pour remonter le moral des troupes est l'élément moteur qui explique leur présence, témoignent quelques manifestants.
Soutenir la FDS, c'est en quelque sorte une manière de faire progresser le pays. Donc c'est pourquoi nous devons les soutenir de telle sorte qu'ils avancent.
On est là ce soir juste pour soutenir les forces de sécurité qui font un bon boulot dans le pays. Voilà. Juste pour leur dire qu'on est derrière eux et on les soutient.
Les citoyens sont ainsi invités à prendre part aux diverses activités lancées à travers la procession, détaille le coordinateur Issouf Zungrana.
Il y a déjà la procession de ce jour. Nous avons décidé de lancer ce message fort-là pour que ces forces-là sachent que le peuple du Burkina Faso se trouve derrière elles. La semaine qui vient, on va organiser des activités sportives. On a dénommé ça les 8 kills civils FDS. Il y a également des activités de don de sang que nous avons demandé. Sur le combat, vous savez que souvent il y a des besoins en don de sang. Donc avec la Direction Générale du Centre National de Transfusion Sanguine, nous sommes en train de déployer un programme. Il y a des activités de plaidoyer que nous allons mener. Tous les acteurs qui sont importants dans le dispositif seront rencontrés. Et pour terminer, nous allons lancer une collecte de fonds pour le fonds de solidarité des forces de défense et de sécurité.
Venez aussi leur témoigner de leur soutien. La coordination d'une association ivoirienne, Côte d'Ivoire Solidarité, était particulièrement active sur le terrain. Leur présence était nécessaire, explique leur représentant Aruna Traoré.
Vous savez que
Burkina Faso, il y a 3000 Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire se trouve à la frontière du Burkina Faso. C'est des personnes lâches qui attaquent les FDS. Donc on ne peut pas savoir par où. Mais nous, en tout cas, de notre côté, en tant qu'Ivoiriens, nous allons faire de sorte que ça ne passe pas par nous. Voilà. Donc c'est aussi notre manière de soutenir les FDS.
Depuis le début de l'année, les attaques terroristes ont progressé du Sahel au nord pour s'étendre au centre et en fait à l'est du pays et faire une quarantaine de morts et de nombreux blessés au sein des FDS et des civils. Des forces de sécurité, sans doute ragaillardies par ses soutiens tous azimuts. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Parlement tunisien a voté une loi criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Le pays comprend une minorité noire estimée entre 12 et 15% de la population et reçoit beaucoup d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Tunis le journaliste Mourad Selami.
Dans cette loi, l'objectif, dans la mesure que dans la société, il y a de la discrimination. C'est vrai que ce n'est pas une discrimination très apparente, mais lorsqu'on constate, par exemple, que l'équipe gouvernementale ne comprend pas des personnes de peau noire, par exemple, lorsqu'on constate que les femmes dans le gouvernement ne constituent que 3 ou 4 sur 40, on comprend parfaitement que la loi est censée faire la locomotive dans une société pour pousser à l'avant vers la fin de la discrimination.
Et justement, c'est une loi qui était attendue de longue date. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a favorisé son adoption en 2018?
Je ne pense pas qu'il y a vraiment une conjoncture spéciale qui a poussé à ce que cette loi soit votée aujourd'hui. Non, c'est plutôt le travail en lui-même de l'Assemblée des représentants du peuple est très lent durant cette législature. Il y a presque 50 ou 60 projets de loi qui attendent encore de passer devant l'Assemblée.
En Tunisie, les minorités, notamment les Noirs, étaient victimes de discrimination. Quelle est l'ampleur de ce phénomène?
Pour être honnête, oui, elles sont victimes de discrimination si l'on voit leur ascension sociale, leur ascension professionnelle. Par exemple, en Tunisie, le mariage mixte blanc-noir est un phénomène vraiment rare. C'est-à-dire que sur l'ensemble des couples tunisiens, il n'y a même pas 2% de couples mixtes qui n'y est pas en Tunisie. Le gouverneur sur les 26 gouverneurs tunisiens de gouverneurs noirs, pourtant la population noire en Tunisie et de l'ordre de 10 ou 11%.
Beaucoup d'étudiants venant d'Afrique subsaharienne se plaignent sur les réseaux sociaux de la manière dont ils sont traités en Tunisie. Est-ce que c'est une réalité et qu'est-ce que le gouvernement tunisien fait?
Cela ne vient pas du fait qu'il soit noir. Cela vient du fait qu'il soit étranger. Mais le phénomène est circonscrit. Le phénomène n'est pas très, très large.
C'était le journaliste tunisien Mourad Selami.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Firmin Max Koyaveda et Georges Léonard Sagno. La console, Sidrac Franklin, au micro Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous, tout de suite, le dialogue des religions, présenté par Eric Manirakiza. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.